12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Place à la critique et place aujourd'hui aux essais, à deux essais dont le premier nous emmène sur le continent africain au tournant de la décolonisation. Comment la conservation de la nature est-elle alors devenue un enjeu non pas de rupture mais de continuité? C'est le sujet de La nature des hommes de Guillaume Blanc paru aux éditions de La Découverte. Le deuxième essai, lui, nous emmène dans le monde des amours adolescentes à travers le crush, ce coup de cœur, relation virtuelle qui remodèle l'amour. Ce sera avec le livre de Christine Détresse paru aux éditions Flammarion.
Bonjour Marie Boueton.
Bonjour.
Grand reporter à La Croix, l'Hebdo. Vous allez débattre ce midi avec vous, Nora Boisoni. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste, autrice et traductrice. Soyez toutes les deux les bienvenues dans les Midis de Culture.
Et on commence avec La nature des hommes, une mission écologique pour sauver l'Afrique de Guillaume Blanc, paru aux éditions La Découverte.
Au moment où nous enregistrons cette émission, se termine la deuxième journée de la conférence consacrée à la protection, à la conservation de la nature africaine, conférence qui a commencé mardi dernier à Arusha, le fameux centre cynégétique et touristique du Nord Tanganyika.
5 septembre 1961, dans le nord de l'actuelle Tanzanie, une centaine d'hommes se réunit dans la petite ville d'Arusha. Leur but, organiser l'avenir de la nature dans les pays africains qui accèdent à l'indépendance. Ou plus précisément, organiser ce qui était déjà à l'œuvre durant la colonisation, la protection de la nature, celle que les colons ont mythifiée comme une nature vierge et sauvage, mais qui, disons-le, n'a jamais existé. Étonnamment, la décolonisation ne fait pas ici rupture, mais se présente donc comme une continuité des politiques écologiques. Les mots changent, mais l'idée reste la même. Protéger la nature contre les habitants, autrement dit les expulser de leurs terres, pour créer des parcs nationaux. Ce qui est appelé projet spécial africain, l'historien Guillaume Blanc le raconte à travers quatre points de vue, celui des experts gentlemen, des ex-colons reconvertis en experts, des dirigeants africains et des paysans. C'est passionnant, c'est fouillé, éclairant. Dans la suite de ses travaux sur la colonisation verte, qu'en avez-vous pensé, Nora Boisouni?
Plein de choses.
Ah bah ça tombe bien.
Plein de choses, tombe bien. D'abord, c'est très stimulant. Effectivement, on identifie une des manifestations d'un continuum colonial. Ici, donc, une politique conservationniste, des pratiques conservationnistes plutôt que préservationnistes. On y reviendra sûrement sur ces dichotomies, qui sont apparemment vertueuses. Donc, lui, il appelle ça la mise sous cloche des pays africains. Donc, on se dit, ah bah oui, pour conserver, préserver la faune sauvage, les paysages paradisiaque dans les yeux des colons là-bas. Et en fait, on décortique les mécanismes qui sont racistes, qui sont du même ressort que la mission soi-disant civilisatrice des empires coloniaux. Mmh. Le tout, je trouve, avec beaucoup de nuances et de subtilité, puisque comme vous le disiez, il rappelle aussi que les États africains en ont profité d'une certaine manière, que ce soit pour la promotion sociale ou une promotion idéologique et politique, pour récupérer de l'argent de toutes ces institutions dont on a pléthore d'acronymes dans le livre.
Oui, donc, beaucoup, beaucoup.
Beaucoup d'acronymes. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Moi, c'est plutôt la structure du livre qui m'a un peu beaucoup déstabilisée, que j'ai trouvé assez confuse. Alors oui, c'est dur de faire le sujet, l'objet d'étude du livre ne peut pas donner une structure chronologique, évidemment. En revanche, moi, j'ai trouvé que les allers-retours dans une grosse décennie ou une vingtaine d'années étaient un peu troublants. Il y a énormément de personnages, c'est pire que Sentiment de solitude, donc on s'y perd souvent. Mais même si lui fait au début un tableau de ses personnages qui est quand même assez savoureux, où il met l'expert au pull en laine, le type comme ci, le mec comme ça.
Bon, le mec avec sa pipe.
Avec sa pipe. Donc, en gros, les trois quarts sont racistes, eugénistes, etc. Et il fait bien de le rappeler. N'empêche que je trouve qu'on s'y perd un peu avec cette galerie de personnages et ses allers-retours et cette structure un petit peu étrange.
Marie Boueton, qu'en avez-vous
pensé ?
Moi,
je suis sortie tout à fait enthousiaste parce que je trouve qu'il montre très bien comment, au moment des indépendances africaines, dans les années 50-60, on voit vraiment trois acteurs qui vont œuvrer de concert. À la fois, un, les grandes institutions internationales, c'est l'UNESCO, c'est WWF qui se crée à ce moment-là. Deux, les colons, mais les anciens colons qui vont quelque part se muer
en experts
environnementaux qui avant dirigeaient ces pays, qui maintenant vont conseiller ces dirigeants. Et c'est là qu'il y a une perpétuation quelque part du colonialisme. Et puis trois, eh bien, ces nouveaux gouvernants africains qui quelque part sont en quête de reconnaissance internationale, de moyens aussi. Hein, on leur alloue des millions pour créer ces parcs. Les trois vont converger quelque part et avec vraiment, comment dire, un impensé, chez les Occidentaux en tout cas, qui est une conception de la nature qui se veut en Afrique, dans ces grands espaces, qui se veut forcément vierge, intacte, édénique et forcément, du coup, inhabitée. Et donc, on voit bien que ces trois acteurs vont pour, avec des intérêts bien compris, hein, différents chez chacun, mais au fond, exiger des populations locales qui sont là. Ils sont là par dizaines de milliers. On le voit notamment parce qu'on dissèque plus spécifiquement le cas éthiopien. Ils sont là par dizaines de milliers. Ce sont des agro-pasteurs qui font paître leurs chèvres, leurs buffles, qui font des petits brûlés saisonniers, etc., à qui on dit maintenant c'est fini. Ou vous vous adaptez, ou vous partez. Et je trouve que ce qui est très pertinent dans l'ouvrage, c'est qu'on nous montre une forme de perpétuation du colonialisme quelque part, mais sans outrance. C'est pas ultra-violent, c'est le colonialisme du quotidien. Et je trouve que là, c'est vraiment très, très nuancé, très... peut-être même impensé chez certains, en fait. Et je trouve que c'est très subtilement montré. Et on montre bien comment, au fond, il s'agit de sauver l'Afrique d'elle-même. Sauver l'Afrique de ses habitants. Parce qu'on estime que s'il y a population locale sur place, forcément, elles détruisent. Et ce qui est très bien montré, c'est le paradoxe entre ces Occidentaux qui, quelque part, vont surprotéger ces espaces en même temps qu'ils surexploitent dans d'autres pays les matières premières, les métaux rares, etc. Et deuxième paradoxe, ils vont urbaniser l'Europe, ils polluent l'Europe, ils industrialisent l'Europe et dans le même temps, il s'agit du coup de se conserver une forme d'Éden africain pour...
Qui n'a jamais existé.
Qui n'a jamais existé, qu'il fantasme quelque part.
Exactement, et ça il faut quand même le dire. Donc Guillaume Blanc, c'est un maître de conférence à l'université de Rennes, il est historien. En 2020, il a publié cet ouvrage extrêmement intéressant qui s'appelle « L'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain ». Il poursuit ici ce travail, sauf qu'en fait il nous dit, et c'est un des grands enjeux de ce livre, que ce mythe en fait... continue à perdurer pendant la décolonisation. Finalement, il nous montre que la décolonisation n'a de décolonisation que le nom. Et ça, c'est assez bien montré dans la nuance, Nora Boisouni.
Oui, en fait, il parle d'un couple prédation-protection qui est aussi une des bases idéologiques de la colonisation qui donc perdure à travers ces politiques environnementales, comme il dit, une écologie sans humain. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut en reparler, hein, c'est pas terminé cette idéologie d'écologie sans humain. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement, on parle, la violence, quand même, elle est là. On a quand même des gens qui se font tuer, hein, notamment les scouts qui se font tuer, on a des populations.
C'est pour ça que vous deligniez quand Marie disait que la violence était
juste. Je trouve que c'est de manière subtile.
Bien sûr,
cas.
Mais il y a quand même une expulsion, comme Marie le rappelait, des populations qui sont là depuis très longtemps, populations locales, qui sont dans l'auto-subsistance, qui font paître, mais qui cultivent aussi beaucoup. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit à quel point l'interventionnisme de tous ces acteurs confine à l'absurde, puisque cet Éden dont on parle n'est un Éden que pour les Blancs. Donc, on va interdire à des populations locales de chasser sur leur territoire, que ce soit pour manger, vendre les peaux ou le gibier sur des marchés. En revanche, on va distribuer des permis de chasse à des Américains qui repartent avec des trophées qui sont des peaux de léopard ou des têtes d'éléphant. Donc déjà, complètement... Bah encore une fois, voilà, l'Afrique n'est pas aux Africains. Elle est réservée à une élite blanche. On a aussi des animaux qu'on va tuer pour en préserver d'autres. Donc on va tuer des lions pour préserver des antilopes. On va déplacer les animaux pour le plaisir de les chasser entre blancs. Les déplacer en voyant qu'ils vont mourir, hein, en captivité, le temps d'être redéplacé ailleurs. Enfin, il y a une absurdité. Et on, à travers donc cette prédation-préservation, on voit toute le mythe de ce qu'on appelle le white saviorism, donc le mythe du sauveteur blanc, qu'on voit à travers les organisations humanitaires aujourd'hui encore, mais qu'on voit à l'époque déjà avec cette politique. Et j'ai trouvé intéressant aussi qu'il parle d'une politique qui est partie de la préservation à la conservation.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette différence? Est-ce que c'est juste une différence de mots, en fait, une différence cosmétique?
C'est une différence idéologique, capitalistique, coloniale. C'est-à-dire que la préservation, ce serait donc ce mythe d'une terre vierge
qu'on met sous cloche
et sans les habitants qu'on expulse. La conservation, ce serait plutôt une manière d'exploiter, encore une fois, comme l'a fait la colonisation, comme elle le fait toujours, d'exploiter, mais de manière soi-disant plus durable et rationnelle, parce qu'on continue d'infantiliser les populations colonisée ou autrefois colonisée, en disant effectivement on va les sauver l'Afrique des Africains, c'est ce qu'il explique tout au long du livre, en disant ces gens ne sont pas capables de, il faut les éduquer, il n'y a que les Blancs qui peuvent le faire.
Alors ce qui est intéressant, Marie, vous allez pouvoir réagir, c'est aussi la méthode qu'a choisi Guillaume Blanc, à savoir non pas raconter de manière chronologique cet événement qui est très court, en fait, avec quelques centaines de personnes en 61, en septembre 61, il décide de raconter ce même événement de quatre points de vue différents, donc effectivement les experts gentlemen, les anciens colons reconvertis en experts, mais aussi les dirigeants africains qui ont besoin en fait de cette reconnaissance à l'international et de ce contrôle qu'elle permet des populations, et aussi celle des paysans. Est-ce que là, il n'y a pas quand même quelque chose, une place qui est donnée à d'autres points de vue que ceux qu'on peut connaître d'une politique colonialiste, Marie Bouéton?
Oui, et d'autant plus qu'il scrute vraiment, et c'est un boulot sacrément aride, et qu'il arrive parfaitement, je trouve, à problématiser, à verticaliser. Il scrute les archives. Donc, que ce soit les colloques publics de ces gentlemen experts, que ce soit les courriers internes des administrations locales ou bien des grosses ONG, etc., il va scruter dans les archives ce que disent les uns et les autres. Et là, il note vraiment une absence totale des populations locales. Et donc, il entreprend, pour leur donner quand même la parole, ce qu'il appelle la recréation imaginative, qui maintenant est enseignée en université, qui consiste à dire ces personnes sont totalement anonymisé et même invisibilisé. Je vais, à partir d'éléments que me donne à voir malgré tous les archives sur un incident, une mort ici ou là, je vais essayer, en allant sur le terrain par ailleurs, de recréer des personnages types. Et donc, il va recréer de manière relativement convaincante, parce que c'est quand même très incarné, la personne type du résistant, celui qui va résister localement à la mise en place de ces parcs. Le débrouillard, c'est celui qui va dire qu'il a perdu son troupeau de chèvres. En fait, il savait parfaitement qu'elle allait aller au sein du parc qui lui est interdit. Bon. Et donc, ces personnages paradigmatiques, quelque part, sont censés représenter ces populations autochtones qui n'ont absolument pas le droit de citer dans les archives. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Nora à l'instant, sur en effet la différence entre préservation et conservation. Il actualise par ailleurs son propos à la fin de l'ouvrage en disant qu'à partir de 78, je crois que c'est l'UNESCO ou l'ONU plus généralement, qui va créer le concept de réserve anthropologique, où là, malgré tout, les Occidentaux finissent par se rendre compte qu'on ne peut pas quand même préserver ces espaces naturels sans les populations locales. Mais on voit bien les travers qui très très vite vont se dessiner, où il s'agit que ces populations locales, pour tirer quand même profit, et notamment touristiquement, des mannes, de ces bus de touristes qui arrivent. Je crois qu'il prend le cas des Maasai. Bon, ils vont se peindre de manière assez artificielle parce que c'est l'attente des touristes. Donc, on voit bien que quand bien même on permet aux autochtones de rester sur place, il faut quand même qu'ils répondent à l'archétype que s'en font les touristes.
Nora.
Et je voulais juste ajouter, avant de passer au commentaire auquel je pensais, que cette conférence d'Arusha me rappelle la conférence de Berlin. C'est-à-dire que conférence de Berlin, où les puissances coloniales ont pris une équerre, un compas, un crayon, et ont décidé de morceler le territoire comme bon leur semblait. Et là, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on va mettre sous cloche des territoires de la même manière. On va tirer une ligne, on va dire d'ici à ici, on met sous cloche. D'ici à ici, c'est un parc national, sans demander rien à personne. Et en éloignant, effectivement, des agropasteurs.
Sauf que c'est intéressant de le lire parce qu'on le comprend. On comprend que ça s'est passé comme ça.
Et que c'est arbitraire. Et que ça n'a pas été fait forcément en consultation à pouvoir égal avec les pouvoirs publics des États africains. Ce que je voulais ajouter sur le travail d'historien dont parlait Marie, moi c'est vraiment une des choses que je trouvais très stimulante dans son livre, c'est qu'il a un regard un peu, il a beaucoup de recul sur son travail, sur ce travail en cours, comme le disait Marie, avec des dizaines de milliers de documents. Il en parle assez, de façon assez drôle aussi, en se disant...
Il a dit j'étais noyée.
Il dit à un moment j'ai dû ouvrir mon dossier avant d'écrire ce livre, et je me suis dit waouh, alors ça fait quand même beaucoup de matière là, comment on va faire. Et ce que j'aime, c'est les commentaires un peu méta sur son travail. Il y a une sorte de mini-making-of à travers le livre.
On est avec lui dans l'enquête, en fait.
Ouais, et ça, je trouve ça vraiment cool. On est avec lui, c'est vraiment chouette. Il y a une autocritique aussi de ce travail. Et ce dont on parlait, pour moi, ça pose la question de qui écrit l'histoire.
Oui.
Et à travers ce livre, c'est ça, en fait, pour moi, une des interrogations les plus stimulantes dans les travaux d'historiens présents sur toutes ces choses qui se sont passées relativement récemment. Qui écrit l'histoire? Qui l'écrit? Qui est dedans? Et donc, ce que disait Marie, à travers ces personnages qui décrit, donc, qui incarnent des façons de faire, de survivre, etc., en langue amharique, d'ailleurs, la langue éthiopienne, une des langues éthiopiennes, c'est justement nous montrer que ces personnages n'ont même pas de prénom, n'ont même pas de nom. Il en fait des archétypes, pas du tout de façon péjorative, mais pour nous montrer justement qu'en fait on ne savait pas, et à plusieurs reprises il dit les Africains ne sont pas nommés, Donc on a les noms, on a quand même la matière du pull d'un des experts gentlemen quand même. On sait quelles sont leurs habitudes, etc.
Mais on connaît toute leur vie.
On connaît leur vie entière. Mmh. Et puis ce qui est drôle, c'est les lettres qu'ils s'envoient. On voit les luttes de pouvoir intestines, les mecs qui veulent se replacer dans telle organisation, qui avancent leur pion. Et au final, les personnes concernées, donc les experts africains, qui vont être formés dans des universités, soit qui ont été créées par les Blancs en Afrique, soit aux États-Unis, mais qui vont eux aussi avancer leur pion de manière très intelligente.
Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot, Marie ?
Non, j'ai trouvé que c'était magistral de croiser comme cela, moi je n'avais jamais vu de cette façon, l'histoire sociale et l'histoire environnementale. Et là, je trouve que vraiment, moi j'étais totalement méconnaissante de l'histoire environnementale et je trouve que disséquer l'histoire sociale au travers du prisme de l'environnement se révèle vraiment passionnant. Oye, oye, la voix c'est oye. Oye, oye, la voix c'est oye. Oye, oye.
Nous venons de parler de la nature des hommes, une mission écologique pour sauver, entre guillemets, l'Afrique de Guillaume Blanc. C'est aux éditions La Découverte.
12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoy, Nicolas Herbeau.
Et nous mettons à présent en débat Crush, nouveau fragment du discours amoureux de Christine Détraise. C'est aux éditions Flammarion.
Voilà, vous l'avez demandé, Nora, le voici, Crush de Jennifer Page. Comme quoi, même en 1998, le crush était déjà d'actualité et loin d'être un effet de mode, il s'est installé, incrusté dans les pratiques amoureuses. Le crush, ou le coup de cœur, nous dit le petit Robert, dans lequel le mot a fait son entrée seulement il y a un an, et qui n'a rien à voir avec le coup de foudre, le béguin ou le flirt. Alors, quel est-il ce crush ? Est-il une actualisation contemporaine de l'amour ou une nouvelle manière d'aimer ? Est-il le simple produit d'une époque qui va passer ? Ou une redéfinition pérenne des relations aux autres. C'est tout l'enjeu de cet essai de la sociologue Christine Détraise qui s'est engagée sur ce terrain des amours adolescentes. Plus virtuelles, plus fantasmatiques, plus obsessionnelles, plus éphémères, mais toujours aussi genrées. Qu'avez-vous pensé de ce livre sous-titré « Fragments du nouveau discours amoureux » mais qui ne cite jamais Roland Barthes, je précise, Marie Boéton.
Moi j'ai été plutôt déçue. Parce que j'en avais beaucoup d'attentes, je pense que l'époque se dit et se raconte au travers de certains mots. Et je pense que c'en est un. Crush, c'est 10 millions de publications sur TikTok. Il est rentré dans le Robert, comme vous le disiez.
Que j'étais étonnée, 2023.
Oui.
Bon.
Un peu tard. Bon. mais moi, j'avais un certain nombre d'attentes. Notamment, j'étais désireuse de comprendre en quoi ça révolutionnait ou pas l'imaginaire amoureux des 15-20 ans, des 15-25 ans. Et j'en ressors un peu déçue parce que je trouve que l'auteur ne s'est pas cantonné à la définition classique, alors peut-être pas assez rigoureuse à ses yeux, hein, mais classique du coup de cœur fugace, sans lendemain, platonique, en creusant ce que ça peut dire de l'époque. Elle a, je pense, par souci d'exhaustivité, souhaité interroger toute une cohorte de jeunes. Elle leur laisse très longuement la place parce que vraiment l'ouvrage est scandé par de très très longs verbatims. Et là, on se rend compte qu'en fait, il y a autant de crushs que de personnes interviewées. Sachant que le crush diffère dans sa définition en fonction du genre, en fonction du sexe, en fonction du milieu social, du milieu culturel, etc. Et je trouve qu'in fine, ce souci d'exhaustivité et ce désir de donner la parole fragilise quelque part l'unicité de son propos. Je vous relève trois paradoxes, ce qui fait que moi, j'étais perdue à la fin de l'ouvrage. Pour certains, le crush, c'est emblématique du romantisme. Parce que typiquement, c'est platonique, c'est l'anti-appli de rencontre, bon, très bien. Puis pour d'autres, à l'inverse, c'est emblématique du consumérisme et du zapping de l'époque, quoi. Un crush de perdu, 10 de retrouvé, on a toujours un petit crush sous le coude. Bon, alors du coup, c'est quoi ? C'est romantique ou c'est consumériste ? Deuxième paradoxe, pour certains, c'est léger le crush. Puis pour d'autres, ça va prendre une tournure obsessionnelle. Ils vont stocker comme des fous sur Internet en voulant scruter les faits et gestes de leur crush. Du coup, léger ou obsessionnel ? Troisième paradoxe, pour certains, c'est emblématique de l'étape d'avant les sentiments. Et puis pour d'autres, au contraire, c'est une manière de masquer ses sentiments, soit vis-à-vis de soi-même, soit vis-à-vis des autres, pour éviter les déconvenues. Bon, et à la fin, page 172, donc à un stade relativement avancé de l'ouvrage, elle dit même, je crois qu'il est plus facile de définir le crush par ce qu'il n'est pas que par ce qu'il est. Et j'ai trouvé cette phrase assez emblématique, en effet.
C'est un petit peu facile, c'est une petite pirouette.
Certes, n'empêche que moi, je suis perdue. J'aurais préféré, et c'est d'autant plus dommage qu'elle elle évoque certaines pistes que j'aurais voulu voir disséquer, qui sont passionnantes, mais à vouloir donner la parole et à vouloir quelque part disséquer toutes les facettes possibles du crush, pour moi, ça dessert un propos global.
Nora Boisouni, est-ce que vous êtes d'accord avec Marie Boéton? Et puis, on pourra peut-être aussi revenir quand même sur cette cohorte, sur cet échantillon de paroles, en fait.
Tout à fait d'accord avec tout ce que vient de dire Marie Boéton. Moi, je serais même encore plus sévère sur ce livre. Je trouve que c'est un livre qui manque de rigueur, qui manque d'ambition, qui manque de sérieux. Je trouve que c'est très forcé et que c'est très opportuniste. On a l'impression qu'effectivement, la définition entre dans le dictionnaire et ça y est, il y a un projet éditorial qui sort pour être présent dessus.
Bon, sachant qu'elle a quand même travaillé dessus avant.
Bien sûr. Mais je me dis, bon, il y a quand même un côté opportuniste. Après, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. L'opportunisme n'est pas forcément péjoratif dans l'édition. Ce livre souffre obligatoirement de la comparaison avec celui d'Isabelle Claire en 2023, qui s'appelle Les choses sérieuses, enquête sur les amours adolescents, qui est béton pour moi, méthodologiquement, et qui est extrêmement intéressant et profond. Sur la cohorte, sur les enquêtés. Alors, on a des 13-25 ans. Déjà, je trouve ça extrêmement large. 13-25 ans, j'étais très étonnée, justement.
25 ans, c'est plus un crush.
Voilà, c'est quand même assez différent. On est dans chez des adultes, hein, une vie d'adulte active. Les enquêtés sont, pour la plupart, ou tous ou toutes, des amis de ses enfants. Beaucoup. Et on a à la fin une scène
hallucinante. Qu'elle est sociologue à l'ENS, ça permet aussi de la situer socialement.
Voilà, socialement. Donc, et on a une scène hallucinante à la fin qui, moi, m'a fait vraiment lâcher le livre, mais d'énervement, où elle dit qu'elle est autour d'une bouteille de rosée avec les amis de ses enfants et qui lui parle de crush et tout. Et j'étais là, mais où est-ce qu'on est? Quelle méthode scientifique? Où est la rigueur scientifique? Les enquêtés sont du même milieu social, visiblement, puisque ce sont les amis de ses enfants, donc c'est via l'école qu'elle les rencontre. Et puis, pour reprendre aussi ce que disait Marie, on a 30 pages de contexte historique, 67 pages avant que commence l'enquête. Le début est extrêmement long, elle recopie des passages entiers d'autres livres. Et puis, moi, je me dis, de toute façon, le crush, c'est quoi? On a entendu une chanson de 98, le mot crush, et elle le rappelle dans le livre, elle est honnête à ce sujet, est un mot qui existe depuis extrêmement longtemps.
D'ailleurs, ça, c'est quand même assez intéressant, je vous interromps juste deux secondes, Nora, parce qu'elle dit quand même que le mot crush, la première fois qu'on le voit apparaître, c'est quand même en Angleterre, dans des pensionnats, avec l'espèce de suspicion d'amour lesbienne entre des... Alors ça, c'est très... Pour le coup, ça, c'est un truc qu'on apprend.
Et c'est intéressant, parce qu'après, elle parle de la mise à distance qu'évoquait Marie, du sentiment amoureux pour se couvrir ou se protéger d'un éventuel râteau ou d'une éventuelle déception. Mais ce mot crush, en fait, ce que vous disiez en introduction, Géraldine, c'est que pour moi, ce mot crush, la réponse est non à chacune des questions que vous posez, je le dirais, parce que ça ne redéfinit rien, ça n'est le symptôme de rien, c'est juste un mot qu'on a toujours eu du mal à définir en français, à traduire surtout en français. On dirait un coup de cœur, mais moi, je dirais un mot beaucoup plus simple, on dirait je te kiffe. Enfin, moi, quand j'ai 38 ans, quand j'étais en primaire, collège, lycée, je disais « je suis en kiff sur quelqu'un, je kiffe, machin ». C'est aussi une manière, avec ce mot arabe, de mettre à distance le mot « amour », le mot « amoureux », etc. De mettre ses sentiments à distance et de les protéger. Donc, pour moi, il y a vraiment un effet, ça tombe à plat, quoi. C'est vraiment un prétexte. On tente de réinventer la roue, alors que ce que décrivent ces jeunes, ou ces un peu moins jeunes, n'a rien de nouveau et d'original. En revanche, c'est vrai, j'aurais vachement aimé qu'on explore le côté stakhanoviste affectif. Donc ce que décrivait Marie sur « il faut toujours avoir un crush », c'est comme ça qu'on a une validation sociale, c'est comme ça qu'on devient adolescente ou adolescent. Les pratiques genrées sont très intéressantes dessus, mais je trouve que ce livre n'est pas sérieux.
En fait, on dirait un début de préparation d'un autre livre sur les amours adolescentes. D'ailleurs, le sous-titre, je l'ai dit, qui rappelle évidemment Barthes, en fait, ne tient pas cette promesse-là de découvrir un nouveau discours amoureux, mais il y a quand même de bonnes intuitions, c'est-à-dire la virtualité impliquée par les réseaux sociaux, le fait que ce soit une construction imaginaire, le fait qu'en fait, ça fonde moins des amours que de l'amitié parce qu'on va en parler avec nos amis. En fait, il y a quand même, en fait, c'est un livre qui recèle de quelques intuitions et en fait, on est frustré parce qu'on aurait aimé que ces intuitions sur la virtualité, sur l'amitié soient développées, Marie Boéton.
Exactement. C'est-à-dire que moi, je dois reconnaître que j'ai trouvé très intéressant la manière dont elle dit que c'est un marqueur d'appartenance à l'adolescence et comment on chez les filles, parce que c'est très genré, on parle en permanence de son crush sans jamais parler au crush, hein, on passe des heures à parler du crush. Et il faut lui reconnaître qu'elle n'a pas de regard surplombant. Moi, j'en avais un. Quand je la disais, je me disais, oh là là, mon Dieu, que c'est futile de faire ça. Et je trouve qu'elle a une manière de dire, mais là, les ados apprennent à décoder leurs propres sentiments. Il y a une vraie pratique culturelle et sociale qui va avec. Hein. Il s'agit que le crush qu'on a soit validé par les copines, hein, parce que sinon, c'est pas possible. Ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de voir comment c'était aussi emblématique de l'extimité aussi, hein, ce terme un peu hybride, hein, ce désir de donner à voir ce qui est censé relever de l'intime. Je trouve qu'il y a de bonnes intuitions. J'aurais juste envie qu'elle creuse ça pendant des chapitres entiers, quoi.
Et puis qu'on arrête un petit peu à légitimer son sujet. Ça vous a plu, ça, Marie? Vous disiez, moi, j'aime bien me dire que moi, je trouve que c'est un sujet futile. Elle montre à quel point c'est un sujet sérieux. C'est un petit peu long avant qu'on en vienne au fait. Il y a aussi une autre bonne intuition, quand même, Nora, c'est peut-être justement sur la permanence de ces amours qui sont genrés. C'est-à-dire qu'en fait, de la même manière que vous disiez, on peut dire crush ou kiff, rien de nouveau sous le soleil. Il y a toujours autant d'effets de genre, de stéréotypes de genre dans les amours adolescente.
Oui, et comme le relevait Marie, c'est-à-dire que c'est surtout les filles qui en parlent longuement, pendant des heures et des heures, ça devient obsessionnel. C'est les filles qui sont visiblement le plus obsédées par ça, et c'est le plus normalisé chez les filles. À la fin, on a un discours qui est quand même très misogyne, hein, de la part de garçons d'une vingtaine d'années qui rigolent quand la sociologue leur pose la question du crush, en disant « mais le mot crush, nous les garçons, on ne dit pas, et puis nous les garçons, on n'est pas obsessionnels, puis nous, on n'en parle pas entre nous ». Donc on voit de toute façon que la charge émotionnelle, le travail affectif, il est toujours fait par les filles ou par les femmes, ça ne change pas, qu'on change de mot ou pas, les pratiques genrées restent malheureusement.
Mais il y a quand même quelque chose aussi qu'on voit, c'est que certains garçons, là il y a peut-être un début de changement, l'utilisent aussi pour se protéger, il y a quelque chose du crush qui les protège. Là où il y a quand même une redéfinition peut-être de l'amour par les adolescents, c'est quand même qu'on est dans un état virtuel de protection, de séparation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage à l'acte. S'il y a un passage à l'acte, il n'y a plus de crush. Ça c'est quand même intéressant, est-ce qu'on en est revenu à une vision romantique, à distance de l'amour, Marie?
Complètement, et j'ai trouvé que c'était pas inintéressant, par moment en tout cas, sa comparaison avec le flirt, qui était lui plutôt l'histoire d'un rapprochement des corps. Là où, à l'inverse, le crush, lui, laisse totalement le corps à distance. J'ai trouvé que ce parallèle était assez, assez bien vu.
Donc, un ouvrage qui nous a tous, toutes, un peu frustrés. Ça s'appelle Crush. Ce sont les nouveaux fragments du discours amoureux de Christine Détraise. C'est paru aux éditions Flammarion. Merci à toutes les deux, Marie Boéton, Nora Boisouni. Toutes les références et tous les débats sont à retrouver sur le site de France Culture, à la page de l'émission Les Midis de Culture et sur l'application Radio France.